Vous êtes sur RTL. RTL,
le 12-30,
avec Amandine Bégaud.
Et bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions, bien sûr, avec vous, les auditeurs. Vous avez la parole, vous le savez, comme jour au 32-10, à la une. Le gaz et l'électricité peut être au plus cher pour les plus riches. Emmanuel Macron accusé d'avoir aidé la société Uber à s'implanter en France. La France, pays le plus attractif d'Europe. Le président reçoit aujourd'hui les patrons étrangers à Versailles. Juste après le journal, on échange, on décrypte, comme chaque jour, autour de deux sujets. On parlera d'abord vacances et pouvoir d'achat. Le ministre des Transports demande aux sociétés d'autoroutes de faire un geste face à la flambée des prix des carburants. Est-ce vraiment possible? On verra ça. Et puis à 12h50, RTL chez vous, votre rendez-vous de la mi-journée sur le Tour de France. C'est jour de repos aujourd'hui sur le Tour. Mais une bonne nouvelle, tous les coureurs ont été testés négatifs au Covid. C'est ce qu'indique l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Notre question du jour sur RTL.fr. Avez-vous arrêté d'emprunter l'autoroute dans vos déplacements? Vous dites non. C'est massivement à 53%. Notre météo, c'est avec vous, Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Le premier jour d'une semaine qui s'annonce bien chaude.
Exactement, avec un temps de plus en plus chaud sur la France, notamment dans le sud-ouest. D'ailleurs, là où ça va commencer cet après-midi, avec des températures souvent comprises entre 35 et 37 degrés autour de la vallée de la Garonne. Plus généralement dans le sud-ouest, on frôlera les 35 degrés. Dans notre région, on dépassera également quasiment partout les 30 degrés, sauf très localement près de la Manche ou encore dans l'extrême nord-est, où on sera déjà tout de même entre 27 et 29 degrés, mais ailleurs plus de 30 degrés. Tout ça avec du grand soleil, quelle que soit la région, peut-être quelques nuages en fin de journée sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Bonne nouvelle en revanche pour la Méditerranée, il y aura moins de vent, moins de mistral et de tramontane.
Et on fera l'agenda de cette vague de chaleur avec vous tout à l'heure à 13h. Merci Louis.
RTL Midi.
Et pour commencer justement, direction Toulouse, 37 degrés c'est pour cet après-midi jusqu'à 39 au moins cette semaine. C'est sans doute l'une des villes où il fera le plus chaud. Une très mauvaise nouvelle. Les commerçants de la place du Capitole, plus le thermomètre grimpe, moins ils ont de clients, Patrick Tégéraud.
Ah, c'est bien le souci de cette place qui attire pourtant les touristes. Passer 30 degrés, sa traversée peut se comparer tout simplement à celle du Sahara. Abel est derrière le comptoir du Florida, la brasserie historique de la place.
On le ressent étant sur la présence des gens. Où il fait trop chaud, les gens ne se représentent pas sur une place comme celle-ci. Ils ont plus tendance à aller dans des petits parcs ou des endroits aérés ou encore au bord des fleuves.
Alors pour rafraîchir un petit peu la terrasse, elle est équipée de misateurs.
C'est clair que si jamais les gens voient trois terrasses, une avec des brumes d'or 200, je pense que le choix est vite fait. Ouais.
Juste à côté, on a transformé la terrasse en oasis, avec des dizaines de lauriers roses et des pots de fleurs. Luc apprécie de servir dans ce décor rafraîchissant.
Déjà d'une, à l'écologie. Disons que ça arbore, ça embellit la terrasse. Ouais. Ça donne envie de venir s'installer chez nous.
En plein soleil, Jean-Baptiste et son collègue rangent leurs outils. Ils ont un métier stratégique.
Nous, on est poseurs de parasols.
Et là, vous manquez pas de boulot?
Non, juste des réparations, des parasols qui s'envolent, donc il faut les réparer.
Ça vous va, vous, le soleil?
Fait chaud.
Mais vous travaillez à l'ombre, sous le parasol?
Et quand il est monté, oui. Avant d'être monté, non, on est au soleil.
L'ombre de leur parasol va être particulièrement appréciée cet après-midi. On ne devrait pas être loin des 40 degrés, déjà, au milieu de la place de Granit Rose.
Et on parle de tout ça, bien sûr, à l'ombre. Merci à vous, Patrick Tégéraud, depuis Toulouse. Dans l'actualité également, la flambée des prix de l'énergie. Et ces tarifs qui pourraient bientôt être indexés sur vos revenus, c'est ce qu'a laissé entendre hier Bruno Le Maire.
Il faudra à partir du 1er janvier 2023 que sur l'électricité et sur le gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin, mais pour qu'on puisse le faire, et il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se permettre ces augmentations.
Bonjour Martial Youp.
Bonjour.
Ça veut dire quoi? Que l'énergie sera bientôt plus chère pour les plus riches?
Oui, c'est l'idée. Le gouvernement est en train de préparer les esprits. Les mesures globales sur le carburant, le gaz, l'électricité auront disparu au 1er janvier. Alors maintenant, c'est un ballon d'essai aussi. Il va falloir en débattre à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on nous explique qu'un couple qui gagne 3 600 € à deux, avec deux enfants, continuera, par mois bien sûr, net, continuera à profiter de la ristourne de 18 centimes carburant et du bouclier tarifaire. Mais on s'attend à ce que l'opposition fasse remonter le niveau, bien sûr, des revenus. On s'attend aussi à ce que le système pour le gaz et l'électricité soit dégressif, parce que les prix du gaz ont pris 50% et ceux de l'électricité plus de 30%. On peut supposer qu'il n'y aura qu'une portion la plus riche qui subira les hausses maximales. Et le gouvernement espère aussi que les prix auront commencé à baisser en janvier prochain. Mais là, ça fait quand même un an qu'on attend.
Et ça risque de créer des tensions sociales, tout ça, non?
Mais oui, ça va être très compliqué de débrancher ces aides qui étaient universelles jusqu'ici. Selon les les études de l'INSEE, la moitié des Français gagnent moins de 2000 euros par mois. Donc ça concerne du monde. On peut supposer que ceux qui échappent aux mesures d'aide du gouvernement pour quelques euros vont se révolter. Ce sont les anciens gilets jaunes, hein, ceux qui travaillent, paient des impôts, n'arrivent pas à joindre le bout. Ce risque social, il est sans doute ce qui fait le plus peur d'ailleurs au gouvernement. Mais Bruno Le Maire a prévenu, il n'achètera pas le consensus à coups de milliards. On verra s'il tient.
Martial Liu, chef du service économie de RTL. Autre sujet de tension, le rôle qu'aurait pu jouer Emmanuel Macron dans le déploiement d'Uber en France. Les communistes réclament ce matin l'ouverture d'une commission d'enquête.
Je crois que ça mérite effectivement une commission d'enquête pour s'intéresser à la stratégie d'Uber, à son lobbying, et y compris aux enjeux fiscaux qui peuvent en résulter. On a un vrai problème avec ce modèle économique, avec du travail low cost, précarisé, mal rémunéré. Dans la précédente législature, il y a des propositions de loi qui sont venues en débat pour essayer de conforter le modèle social d'Uber, si on peut parler de modèle social. Il faut vraiment s'y intéresser de près, que le Parlement fasse son travail sur ce sujet.
Pierre Dharréville, le député PC de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Qu'est-ce qui est reproché à Emmanuel Macron ?
Eh bien, les communistes reprochent au chef de l'État pas moins de 17 échanges entre celui qui n'était alors que ministre de l'économie et les équipes d'Uber. Alors on parle de SMS, d'appels, de rendez-vous. Ça se passe entre 2015 et 2017. 17 échanges selon le journal Le Monde, soit un échange par mois en moyenne. Au cœur de ces discussions, la réglementation française sur les VTC. Vous savez, ces véhicules avec chauffeurs qui ne sont pas des taxis. Et selon le journal, le ministre Macron aurait alors aidé l'entreprise américaine dans le but de faire évoluer certaines lois françaises pour qu'elles leur soient plus favorables. Plus qu'un soutien, Emmanuel Macron a été quasiment partenaire d'Uber en France, écrit Le Quotidien ce matin. En ligne de mire, notamment, une petite phrase qu'aurait prononcé le ministre de l'époque, suggérant carrément aux lobbyistes d'Uber de rédiger des amendements clés en main pour les députés lors de l'examen de la loi Macron. C'était en janvier 2015.
Et c'est illégal, ça ?
Eh bien, non, pas vraiment. On peut comprendre que ça en surprenne certains, mais qu'une entreprise transmette à des parlementaires des amendements déjà rédigés, c'est quelque chose d'assez fréquent. Ça arrive tous les jours, sur tous les textes de loi. Qu'un ministre s'implique personnellement, sans mandat du président, c'est un peu plus inédit, mais rien de répréhensible à l'heure où on se parle.
Thomas Després du service public de RTL. Emmanuel Macron qui préside aujourd'hui le sommet Choose France. 180 patrons étrangers réunis à Versailles et près de 7 milliards d'euros d'investissement. Bonjour Anaïs Bouissou. Le gros morceau cette année, c'est cette usine de semi-conducteurs que ST Microelectronics prévoit de construire près de Grenoble.
Oui, c'est le plus important site de production de puces en France qui s'apprête à sortir terre un investissement massif, près de 6 milliards d'euros pour ce projet à lui tout seul. 1000 emplois en perspective qui permet au groupe de décrocher en plus une subvention de l'État. À Grenoble, on produit toutes ces petites pièces qu'on appelle les semi-conducteurs et qui permettent de faire fonctionner des voitures, des ordinateurs, tout un tas d'objets électroniques. Produire des semi-conducteurs devrait éviter à terme d'être totalement dépendant des approvisionnements asiatiques. On en voit les conséquences depuis 2 ans où les chaînes de montage automobiles sont régulièrement à l'arrêt. Aujourd'hui, l'Europe gère moins de 10% de la production mondiale de puces. Cette usine devrait permettre d'atteindre les 20% de puces européennes.
Anaïs Bouissou, merci à vous pour cette explication. Et pendant qu'Emmanuel Macron sera à Versailles cet après-midi, motion de censure à l'Assemblée. Pas ou peu de chance à voter, on le rappelle, les élus RN et LR ont annoncé qu'ils s'abstiendraient. Les députés qui s'attaqueront ensuite au projet de loi sécurité sanitaire. Le texte prévoit la possibilité d'instaurer le pass sanitaire aux frontières, si besoin. Aucune obligation en revanche pour le masque. Les autorités, vous le savez, conseillent de le porter, notamment dans les transports. On a voulu savoir ce qu'il en était avec Mathilde Pires, reportage dans le métro parisien.
Bien que le port du masque ne soit plus obligatoire.
À l'heure de pointe, les métros sont remplis.
Il est fortement recommandé dans l'ensemble du réseau des transports.
Mais à peine une personne sur 10 porte le masque.
Moi, j'ai la flemme de le mettre, j'avoue.
Les recommandations, Lara et Capucine les connaissent par cœur, mais les copies abandonnaient le masque.
Je pars du principe qu'étant vacciné et que je vois pas de personne à risque, je n'ai pas besoin de le mettre.
Même logique pour moi. Même si les consignes disent que ce serait mieux, je le mets pas.
Même certaines personnes plus âgées préfèrent prendre des risques. C'est le cas de Catherine, 81 ans. Est-ce qu'au poignet, elle avoue ?
Je pense que c'est une bonne idée de le porter, mais je le fais pas beaucoup. Enfin, je vais beaucoup à l'hôpital pour le moment, donc je le mets toujours à l'hôpital, évidemment. Mais sans ça...
Et pourquoi ?
Ça tient très chaud.
Parmi les rares personnes masquées, certains gardent leur distance, comme Ieb. Le jeune homme de 25 ans vient de se faire tester. Pour lui, le masque devrait être obligatoire.
Pour 3 mois, en ce moment, il y a beaucoup de cas. C'est mieux d'obliger les gens que de mourir.
Après 2 ans de pandémie, la majorité des voyageurs se dit consciente des risques, mais préfère garder le choix.
Le reportage pour RTL de Mathilde Pires. Pires. Dans l'actuel également, la situation en Ukraine. Les secouristes sont toujours pied d'œuvre dans les décombres de l'immeuble qui a été touché ce week-end par une frappe russe dans l'est du pays. Au moins 15 personnes ont été tuées. Et sur place, dans le Donbass, l'inquiétude grandit, comme a pu le constater Émilie Beaujard. Vous êtes sur place pour RTL.
Oui, tout le monde redoute l'offensive russe. Dans les villes proches de la ligne de front, personne n'ose s'aventurer dehors. Les chiens errants, abandonnés par leurs propriétaires dans la fuite vers l'ouest, continuent de déambuler dans les rues. Les habitants qui restent font stock de nourriture et d'eau dans les quelques magasins encore ouverts. La frappe de ce week-end qui a fait au moins 15 morts près de Bakhmout accentue l'inquiétude des habitants. Mais il y a aussi une forme de fatalité chez les Ukrainiens, voire même de déni pour certains, car ceux qui restent sont les plus pauvres, ce n'ont pas les moyens de partir. Alors ceux-là écoutent les nouvelles, descendent dans les caves quand les sirènes retentissent. Pourtant, des volontaires n'hésitent pas à organiser des évacuations. Ils viennent avec des vannes et donnent des points de rendez-vous à des horaires précis, souvent tôt le matin. Hier à Bakhmout, une dizaine de personnes attendaient à la sortie de la ville avec quelques sacs. Il y a notamment une famille de Severodonetsk qui avait déjà fui les bombardements et qui ne voulait surtout pas revivre la même chose face à cette nouvelle avancée.
Émilie Beaujard avec Julien Fautra, envoyé spéciaux de RTL en Ukraine. 12h01, on va marquer une toute petite pause. Dans un instant, on va parler vacances et pouvoir d'achat. Le ministre des Transports demande ce matin aux autoroutes de faire un geste pour les automobilistes. Est-ce vraiment possible? On en débat dans un instant. À tout de suite sur RTL.
RTL Midi avec Amandine Beau.
Leclerc.
Le goût du frais, ça se défend tous les jours.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, il paraît que vous avez toute l'année une large sélection de bons fromages de nos régions.
Et tenez, goûtez notre Emmental Grand Cru, label rouge, IGP, origine France et en plus, saveur de l'année 2022.
Trop bon.
Et à 9,49€.
RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Didier fait le plein de sa voiture, il rentre de vacances et a choisi d'emprunter les départementales.
On économise le trajet, quoi, péage.
Comme Didier, vous êtes de plus en plus nombreux à préférer les petites routes aux autoroutes, quitte à perdre un peu de temps, façon de compenser la hausse des prix de l'essence. Face à cela, Clément Beaune, le ministre des Transports, appelle les sociétés d'autoroutes à faire un geste. Interview ce matin à nos confrères du Parisien. Alors, est-ce vraiment possible? Dans quelle mesure? C'est le premier débat de RTL Midi. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Spécialiste automobile ici à RTL. Nous sommes aussi avec Laurent Ecquet. Bonjour.
Bonjour.
Avec des questions de mobilité. Alors, on va tout de suite préciser qu'on a essayé de joindre toutes les sociétés d'autoroute. Aucune, pour l'instant, en tout cas, n'a souhaité répondre ni s'exprimer sur l'antenne de RTL. Le sujet est sensible, Laurent. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous les voyez faire un geste?
Bah écoutez, en tout cas, si c'est un geste, il ne peut être que commercial. En tout cas, le ministre, effectivement, lance une phrase. Vous êtes un petit peu surpris, d'ailleurs, de sa phrase, parce qu'il y a eu déjà des précédents d'autres ministres des Transports ou de l'Écologie qui avaient demandé un gel des tarifs, par exemple, en 2015. Ça n'a pas été possible. Donc, imposer quelque chose aux sociétés d'autoroute, non. Et on va peut-être expliquer pourquoi. Par contre, que les sociétés prennent l'initiative de faire un geste, ça leur incombe et c'est oui, éventuellement.
Christophe Bourreau, il faut préciser, ce n'est pas l'État qui fixe les tarifs des péages.
Absolument pas. La marge de manœuvre, d'ailleurs, est très étroite pour le gouvernement parce que, en fait, les sociétés et l'État ont des accords. Donc, ces accords sont faits et signés sur des années, sur des tarifs. On se souvient des conséquences du gel de la hausse des tarifs. C'était en 2015, décidé à l'époque par Ségolène Royal. Cette société avait été attaquée par les sociétés d'autoroute devant le Conseil d'État, qui avait eu gain de cause. Résultat, il y a des compensation paye encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2023. Donc ce n'est pas si simple. À cause de ces contrats, il y a des obligations de la part de l'État qui doit honorer ces contrats et c'est extrêmement difficile pour l'État d'imposer un prix aux sociétés d'autoroute. Comme le dit Laurent Ecquet, ça peut être un geste finalement des sociétés d'autoroute et pas une imposition de la part du gouvernement.
Mais ce geste, les pétroliers l'ont fait par exemple, Laurent Ecquet?
Oui, bah écoutez, c'est justement la libre initiative de chaque société. Peut-être que les sociétés d'autoroute qui ne vous ont encore répondu sont peut-être en train d'y réfléchir. Je pense que elles font des gestes, il faut le préciser, parce qu'elles ont possibilité d'agir sur les tarifs d'abonnement. Mais là, dans les périodes estivales, on a une grande effectivement partie de la population qui emploie qui empruntent ces sociétés autoroutes et qui sont pas sous abonnement. Après, une réflexion qui se pose parce que il faut savoir aussi que dans cette période estivale, on va avoir beaucoup d'étrangers qui vont emprunter ce réseau autoroutier. Donc, si on fait un geste, ce geste n'ira pas que aux simples utilisateurs français, il ira à l'ensemble des utilisateurs aussi étrangers. Et peut-être que les sociétés autoroutières se posent la question sur un éventuel manque que cela peut générer et de savoir si ce geste est justifié parce que, comme vient de l'expliquer Christophe Bourou, ce prix, il a été négocié chaque année, il est négocié avec l'État, avec le ministère des Transports, avec aussi l'autorité de régulation des transports. Et donc, quelque part, c'est une remise en cause de ce droit. Quelque part, c'est comme si on demandait, ma comparaison va être un petit peu compliquée, un petit peu dure, mais c'est comme si on demandait aux fonctionnaires de baisser leur salaire. Du coup, est-ce qu'ils accepteraient ?
Ça mérite d'être clair.
Voilà. Donc là, il faut comprendre effectivement que c'est une décision qui incombe aux sociétés, sur laquelle l'État ne peut rien imposer, mais qui est une décision compliquée parce que effectivement, ça va générer beaucoup de manque à gagner.
À quoi ça sert l'argent des péages, Christophe ?
En 2021, c'est le dernier chiffre connu, c'est plus de 10,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour toutes les sociétés d'autoroute. C'est énorme. Alors on va être très concret, si on prend un ticket de 10 euros, vous avez 3,70 euros qui vont alimenter les caisses de l'État sous forme de taxes. Il y a la TVA, l'impôt sur les sociétés ou ce qu'on appelle la redevance domaniale. D'une certaine façon, c'est une location, c'est-à-dire que les sociétés d'autoroute louent des endroits à l'État, ce qui représente environ 300 millions d'euros par an. Donc ça, c'est 3,70 euros. Vous avez 3 euros qui vont servir à l'entretien du réseau et la construction des voies, des ponts ou des aires de covoiturage. Il y a ensuite les coûts d'exploitation, 1,60 €, ça c'est l'achat de matériel, ou alors pour les fourgons qui interviennent sur les accidents ou les saleuses pour protéger l'hiver les autoroutes. Enfin, le reste, 1,70 € reste dans les caisses des sociétés bien qui exploitent les autoroutes, qui s'en servent soit pour rembourser les emprunts liés aux constructions ou pour rémunérer bien leurs actionnaires.
Et donc c'est sur ça éventuellement qu'il pourrait jouer.
Effectivement.
Laurent Eké, pardon, je me demandais, vous évoquiez les touristes étrangers qui utilisent nos autoroutes. Est-ce que les autoroutes françaises sont plus chères que les autres ?
En tout cas, elles sont beaucoup plus qualitatives que les autres. Les personnes qui ont déjà aidé les autoroutes à l'étranger pourront le confirmer. Donc, elles ont le prix d'une forme de qualité et de sécurité.
Elles sont plus chères, mais mieux.
Voilà, elles sont mieux et je sais que beaucoup de pays européens, on en a déjà parlé avec Christophe Bourou, veulent copier le système français. Je rajouterais simplement une chose, peut-être pour préciser à vos auditeurs, que les prix calculés sur l'inflation, et il y a une loi tarifaire qui chaque année est mise en place, qui est 0,70% de l'inflation. Alors, oui, la question devra se poser pour l'avenir, parce qu'on nous parle d'une inflation qui va augmenter. Donc là, peut-être que effectivement, lors des négociations annuelles entre les sociétés d'autoroute et l'État, il pourra y avoir une prise en compte, parce que jusqu'alors on a eu des inflations relativement basses. Si demain nous avons des taux d'inflation relativement hauts, il faudra se poser la question des augmentations qui risqueront d'être assez conséquentes. Et je dirais qu'il ne faut pas dissuader les usagers d'utiliser ces voies d'utilité publique en termes de sécurité, de fluidité, et que c'est pour ça qu'il faut être très vigilant effectivement sur le prix des péages, de façon à ce que les personnes ne se retrouvent pas sur un réseau secondaire qui est bien plus accidentogène.
Et plus dangereux.
Oui, c'est l'effet pervers. L'autoroute, c'est 3-4 fois plus sûr que les routes secondaires. D'ailleurs, plusieurs associations de prévention, comme la prévention routière, sont contre l'abaissement du 130 à 110 sur autoroute en se disant que les gens vont emprunter le réseau secondaire qui est beaucoup plus dangereux. Il faut savoir qu'il y a 12 000 km à peine d'autoroute en France. C'est 1% du réseau, mais ça concentre 30% des kilomètres parcourus. Donc c'est énorme. Et malgré, on va dire, cette fréquentation, les accidents sont beaucoup plus rares que sur le réseau secondaire.
Oui, plus de 80%. Des vacanciers qui partiront cet été prendront leur voiture et l'autoroute. Merci beaucoup Christophe Bourou, merci aussi à vous Laurent Eké. On marque une toute petite pause dans un instant. RTL Sous, votre rendez-vous du Tour de France. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Vas-y Marc, c'est toi pour la pub.
Connaissez-vous les vins pétillants italiens Villa Veroni ?
Non, on dit plutôt Villa Veroni.
Villa Veroni, c'est un prosecco.
Christophe Paco,
RTL, chez vous.
Et bonjour Christophe.
Bonjour Amandine. Bonjour à tous.
C'est repos aujourd'hui sur la route du Tour. Les sont plutôt rassurantes sur le front du Covid, hein, pour l'instant en tout cas. Les coureurs sont négatifs, c'est ce qu'a dit tout à l'heure l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Le grand témoin dans RTL chez vous aujourd'hui, c'est une ancienne coureuse, organisatrice du Tour de France féminin, Marion Rousse, Christophe.
Oui, une personnalité incontournable dans le cyclisme aujourd'hui. Et après avoir écouté Marion Rousse, nous ferons un point étape avec Laurent Jalabert et nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, ici à Morzine. Sans oublier, dans RTL chez vous, de parler de nos coureurs français. RTL chez vous, c'est parti.
RTL chez vous,
Christophe Paco.
RTL chez vous rencontre aujourd'hui, jour de repos, avec Marion Rousse. Bonjour Marion.
Bonjour, bonjour.
Ancienne championne cycliste, bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes aux commentaires à France 2. Vous êtes organisatrice d'événements cyclistes aussi. Vous n'arrêtez pas.
Non, c'est vrai que j'ai un emploi du temps bien chargé. Mais quand on peut vivre de sa passion, c'est plus que du bonheur. Donc je ne vais pas me plaindre.
Et jeune maman aussi, bien sûr, on le sait.
Ah bah, je pense que c'est le métier qui me prend le plus de temps. Un petit bébé de 1 an, mais pareil, c'est que du bonheur.
Oh mais c'est pas simple, mais papa est là pour l'instant.
Papa n'est pas sur le Tour de France, hein, c'est Julien Alaphilippe, donc évidemment il a pu passer plus de temps avec Nico, mais il a aussi un emploi du temps très chargé, hein, même s'il n'est pas sur le Tour, il est déjà en stage à Livigno et il prépare la fin de saison surtout.
Et vous n'avez pas le temps de vous ennuyer sur le Tour de France. C'est une course qui vous impressionne toujours autant, le Tour de France, vous maintenant organisatrice de compétition.
C'est une course qui est quand même à part, qui dépasse les frontières du sport et évidemment tout au long de la saison il y a des belles compétitions. Mais le Tour de France, c'est quand même la plus belle course et qui fait rêver, qui donne des vocations aussi sur le bord de la route. Et c'est un bonheur de retourner en plus nous sur place.
Depuis 48 heures, on sait qu'il y a cette vague Covid qui plane. Quand on est organisateur justement d'événements, c'est en tant que patronne.
C'est une situation assez délicate. Une épée de Damoclès qui est vraiment au-dessus du peloton. Et c'est vrai que quand tu es coureur et que tu fais tout à 100% pour arriver en forme sur la plus belle course du monde, tu n'as pas enviré la menace du Covid, mais pourtant elle est bien réelle.
Il ne faut pas que la course soit faussée non plus.
Non, mais elle a déjà été faussée sur le Tour Suisse, un coureur comme Vlasov avait gagné l'étape Rennes, il paraissait au-dessus du lot et puis le soir même il a été testé positif, donc on a peur de ça et on ne le veut pas, mais certainement qu'il y aura des coureurs qui vont devoir quitter la route du Tour.
Comment ne pas terminer Marion Rousse avec un événement que l'on attend avec impatience, le jour de l'arrivée des garçons, les filles vont partir sur un Tour de France compacté d'une semaine quand même, hein, mais c'est un bel événement de jumeler les deux, vous la grande patronne maintenant, presso, du Tour de France féminin.
C'est ça, la première édition du Tour de France femme avec Zwift qui partira donc le 24 juillet, juste avant l'arrivée des hommes. Et c'est vrai que c'était important pour nous de pouvoir la coller aux 3 semaines du Tour parce qu'il n'y a pas meilleure caisse de résonance et meilleur teasing qu'on est en train de faire.
Et on va vous suivre, bien évidemment.
J'espère.
Bravo, Marion Rousse. Merci Marion, bonne fin de Tour de France.
Merci beaucoup.
Tour de France 2022.
RTL, chez vous.
Pas de repos pour les supporters, ni pour Hortense Crépin. Bon Hortense.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
C'était génial quand même, Pinot qui a failli gagner, là-bas il termine 4e, il est combatif. Est-ce qu'un Français va enfin gagner une étape, Hortense?
Nous, si tant est qu'un Français gagne une étape, qui est-ce que vous verriez, vous?
Je dirais Gaudu.
Romain Bardet, moi. Il est à l'attaque dans l'école, et puis il a une bonne image.
Romain Bardet aussi, comme mon frangin. Pourquoi pas le 14 juillet aussi. C'est étape aussi de montagne, donc ouais, j'ai envie d'y croire aussi, moi.
On attend quand même là un peu de voir des Français, ça fait du bien.
Ouais, bah Thibaut Pinot, là, peut-être.
Oui, Pinot, oui.
Ouais, pourquoi ?
Pinot, il va nous en gagner une cette année, parce qu'il pense qu'à ça, et qu'il revient de loin, et il a beaucoup de mental, je pense.
Peu importe le nom, pourvu que ce soit un Français.
Oui, on est chauvin jusqu'au bout.
Et n'oubliez jamais, le Tour d'Or, c'est tous les matins sur RTL, à 8h45.
RTL, chez vous.
On vient de l'entendre, oui, on rêve d'un succès français, bien sûr. On l'a bien compris, hein. Thibaut Pinot, c'est le chouchou de la France sur ce Tour. Avec nous, Christophe Bérard, en repos là-haut, dans ces montagnes. Salut Christophe.
Bonjour Christophe.
Notre confrère d'aujourd'hui en France, le Parisien. Pinot, on peut parler de Pinomania?
Ah, c'est au-delà de la Pinomania, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel. À un moment, je m'étais mis dans la descente. On voit Bob Jungels passer, le public l'encourage, et tout à coup, il y a une espèce de cribo, Thibaut. Sincèrement, c'est un stade de foot. Les bords de route sont un stade boot, lui qui aime tant d'ailleurs le foot et le côté ultra, c'est le seul dans ce Tour, en l'absence de Julien Alaphilippe, qui dégage quelque chose, oui, de l'ordre de l'irrationnel. Il y a une affection quasi naturelle pour ce garçon qui ne la recherche pas, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est aimé. Les gens se reconnaissent en lui. Il y avait une espèce de tension, de bonheur, d'idée que ça y est, 3 ans après sa victoire au Tourmalet en 2019, il allait enfin conjurer le sort. Les gens y ont cru, et j'ai envie de vous dire, ouais, ils ont raison d'y croire. Ils vont continuer à y croire.
Christophe Bérard, aujourd'hui en France, le Parisien, aujourd'hui niché tout là-haut, dans la montagne de Morzine. On se retrouve demain au départ, ça vous va Christophe Bérard?
Parfait, à demain Christophe.
RTL, chez vous.
RTL, chez vous, avec le maire de Morzine, Fabien Trombert, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Alors ce qui est formidable, c'est qu'on est chez vous pour une journée de repos et pour un départ. Ça, c'est quand même quelque chose.
C'est vraiment exceptionnel. On a du soleil, du beau temps. Tout le monde est là, c'est festif. C'est beaucoup de travail pour la mairie, mais franchement, les journées de repos, c'est que tout le monde apprécie. Et c'est vraiment extraordinaire. Et on attend demain le départ avec impatience.
Et demain, Morzine, Megève, ça va être magnifique aussi. Pour Morzine, c'est un investissement humain, économique aussi, bien sûr.
Ah oui, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que les résultats soient là. Tout le monde est content, tout le monde est au rendez-vous. Je crois que c'est vraiment exceptionnel. Le public est là. Et puis là, derrière, la publicité est incroyable.
Et puis Morzine, c'est l'histoire du Tour aussi.
22 fois qu'il vient à Morzine, connu et reconnu. On a des étapes de montagne qui sont exceptionnelles. Un panorama voilà, qui ne change pas. On est toujours émerveillé. Donc oui, un peu une histoire d'amour entre le Tour et Morzine, on peut le dire.
Et tout le monde joue le jeu, les commerçants, les hôteliers, bien sûr.
Ah bah, de vous, c'est magnifique. On a joué le jeu.
Il est bientôt 13h. Qu'est-ce qu'on se fait? On a le temps d'aller manger un petit morceau, monsieur le maire? Qu'est-ce qu'on mange ici?
La tartiflette, bien sûr, la truite pêchée dans la rivière.
Ouais, voilà.
Les creusets, voilà, tout est là pour vous ravir et pour partir avec la Haute-Savoie dans le cœur et dans les yeux. Voilà.
Qu'est-ce qu'il est bon ce jour de repos ici à Morzine. Merci monsieur le maire Fabien Trombert, merci à vous.
Merci à vous et à très bientôt.
RTL, chez vous,
Christophe Paco.
Avec Laurent Jalabert dans RTL, une journée particulière, on le sait, pour les coureurs et même pour les suiveurs, Laurent Jalabert.
Oui, c'est une journée de repos et elle sera la bienvenue parce que ce Tour de France, on a l'impression qu'on est déjà parti depuis 2 semaines. Mais ça ne fait qu'une semaine, il en reste 2 encore, 2 semaines entières de course. Alors bien sûr, il y a les tests Covid et en espérant que ça se passe bien pour tous, mais il va falloir profiter de cette journée surtout pour se reposer physiquement et essayer de retrouver un peu de fraîcheur mentale aussi pour repartir au combat dès le lendemain.
Bon repos, Laurent Jalabert, on vous retrouve ce soir dans le club Jalabert, à quelle heure?
À 18h30, Christophe.
Mais avec Christian Lévy en plus, ce soir sur RTL, bien sûr. Bonne journée, bon repos, Laurent.
Merci.
Voilà Amandine, une journée de tranquillité, on l'espère ici à Morzine après un long week de tension pour toute la caravane du Tour, avant de nouveaux grands sommets dès demain à venir.
Bon, en tout cas, on est dans l'ordre avec toute cette musique. Merci à vous, Christophe. 18h30 ce soir, n'oublie pas, Christian Olivier, Laurent Jalabert pour le Club Jalabert.
Tour de France 2022.
RTL, chez vous.
Century 21, partenaire officiel du Tour de France, vous fait vivre toutes les émotions du sport. Century 21, parlons de vous, parlons bien.
Dans un instant sur RTL, bien sûr, vous avez la parole. Le rappel des titres, c'est dans une...